Bon, bah, je vais commencer par une question. Une question un peu transversale sur plutôt, je parle avec une vision historique. On voit bien, tu en as parlé, Denis, de cet artifice que l'administration, enfin, dont la gouvernance, on a construit pour mener le privé et le public. Alors, tu as parlé dans le cas de la conchyliculture aussi, dans la gestion des ressources de pêche, où on voit toujours une inertie culturelle qui est profonde, ancrée dans la vision franco-française, je dirais aussi latine, si on élargit un petit peu, des volontés de garder un espace public dans la gouvernance des ressources et des espaces marins, et au-delà des espaces marins aussi. Mais derrière, il y a quand même une inertie très forte, une poussée considérable d'aller vers la privatisation dans une un peu vision anglo-saxonne. Et on le voit aussi, il y a aussi cette tendance dans l'assurance du risque santé. Et puis on peut le voir aussi dans l'économie solidaire. Alors la question, c'est est-ce que les artifices, est-ce que ce qu'on voit émerger, ce n'est pas effectivement des réactions, des réponses tampons à une inertie plus profonde que finalement va nous conduire vers une privatisation in fine, ce qu'on voit un peu dans le panorama international. Est-ce que finalement il y a une espèce de réticence française ou latine pour aller vers cette privatisation et que du coup on construit, on fait émerger de nouvelles formes un peu hybrides, intermédiaires, mais je ne sais pas, c'est une question que je me pose, si à terme elles ne vont pas s'affaiblir.
Oui, non, on construit effectivement des formes hybrides. Je crois que la dernière intervention montre bien qu'on a des formes hybrides pour fournir ce qu'on appelle des services dits publics, mais on invente des formes hybrides. Et puis, évidemment, c'est très le débat, la transformation sociale, elle est très, très liée à un certain nombre de cristallisations idéologiques, mais aussi de crispations sur des intérêts. Alors, est-ce que nous, on est moins sujet, enfin, on est plus résistant à la transformation marchande? Mais je crois qu'il y a un grand questionnement dans tous ces domaines-là. C'est la recherche d'une... est-ce que c'est la concurrence entre les formes, la concurrence entre les organisations? Mais il y a la recherche d'une certaine efficacité. Il y a le constat qu'il y a des problèmes qu'on ne traite pas ou qu'on traite mal. Et il y a des problèmes qu'on traite de manière, disons, très, peut-être bien, mais de manière très, 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 très coûteuse. Avec certainement le fait qu'on a une vision beaucoup moins dichotomique que les transformations sociales qui ont peut-être faites dans le monde anglo-saxon post-deuxième guerre mondiale. Maintenant, est-ce qu'on est meilleur, est-ce qu'on est moins bon? J'ai pas d'avis sur la question.
Plus que la question de l'efficacité, parce que là, c'est vraiment une question qui se pose aussi en termes d'efficacité, mais là, je parlais plutôt en termes d'évolution de dynamique. Vers où on va?
Je serais bien en peine de répondre à la question. Au moins dans le champ sur lequel je travaille, je pense qu'il y a le poids de l'histoire et des trajectoires historiques qui sont déterminants, en fait, notamment le poids de la mutualité historiquement en France. Et les évolutions que connaît ce secteur ont été très, très, très lentes, notamment la transposition des directives assurance au secteur mutualiste. C'est une histoire... qui a pris 9 ans, c'est-à-dire que 9 ans après le délai initial de transposition, il y a eu une transposition de la directive pour les mutuelles en France. Et les réformes qui ont suivi, pour moi, sont également empreintes de cette histoire, sont orientées par cette histoire. Et donc, il n'y a pas de choix radical fait par les pouvoirs publics qui essayent, à mon sens, mais peut-être que mon analyse est biaisée, mais essayent de ménager aussi le poids des mutuelles, le capital symbolique aussi qu'elles portent. Et donc on a des évolutions qui sont un peu hybrides, très difficiles à identifier de façon très, très nette. Mais voilà, ce n'est pas vraiment une réponse très satisfaisante. Des choses à, peut-être que Gaël, tu aurais des choses à ajouter là-dessus.
Un petit peu plus compliqué que ça, au sens où public, privé, déjà l'État, on essaye de ne pas utiliser l'État comme un outil unique. Donc, à la limite, est-ce qu'on ne pourra plutôt parler d'une bercialisation des politiques publiques ? Ça serait peut-être plus vrai qu'une étatisation, et notamment, ça serait quel État, quelle transformation, avec l'enjeu en termes de qui est, qui compose et qui sont les individus et quel est leur statut qui compose. Par exemple, si on prend le champ de la santé, les agences régionales de santé en France, c'est effectivement une réétatisation. Alors du coup, ça passe pas, mais cette étatisation, elle se fait aussi par une défonctionnalisation, avec des recrutements qui sont de plus en plus avec des contractuels. Donc, justement, la coupure publique-privée est peut-être en partie quelque chose à dépasser, au sens où la défonctionnalisation, c'est quelque chose dont on peut, qui semble logique, et pour autant, l'emprise d'une certaine part de la haute administration n'a jamais été aussi forte. Voilà.
Merci beaucoup pour toutes les interventions. Moi, j'avais une question, du coup, sur les mots qu'on emploie pour parler de ces phénomènes un peu hybrides, et notamment celui de commun, enfin le passage des biens publics aux biens communs, qu'on retrouve beaucoup autour des enjeux de patrimonialisation. Et comment, alors là, c'est peut-être plus une question aux économistes, mais comment, du coup, autour de cette notion qui devient très à la mode, et pas seulement dans les politiques environnementales, aussi beaucoup dans le numérique. Comment s'articule, du coup, là, l'espace public-privé et le secteur public-privé, le rôle de l'État ?
Denis, peut-être ?
Oui, mais le terme de commun qui a été popularisé, qui est devenu à la mode, je ne sais pas s'il faut revenir à l'historique de l'émergence de ces notions-là. C'est un sous-produit de la discussion sur la gouvernance et l'horizontalité. Et c'est quand même un intéressant de voir que la question des communs, au départ, quand elle a été émergée dans la discussion aux États-Unis, dans les travaux de Tellinger et de Vincent Strauss, ça n'était pas la bagarre contre la marchandisation, c'est le contraire, c'était la bagarre contre la présence tentaculaire de l'État dans une multitude, un bourgeonnement de l'offre de services, l'enrichissement de la société, etc. L'État qui voulait tout contrôler, et c'était de revenir à la tradition des pionniers, qui était de dire l'auto-organisation, la capacité auto-organisée de la société à se fournir ses services sans avoir besoin de l'État. Et donc c'est la capacité d'auto-régulation de ces espaces-là. De ces espaces. Alors il y a un mot. Alors effectivement, je suis pas pour moi le mot public, enfin public privé ne veut pas dire grand chose, mais l'action individuelle, l'action collective, par qui elle est menée, par qui elle est organisée, et on a de plus en plus d'objets transversaux ou transappropriatifs qui traversent la propriété et qui sont mal gérés par l'État, qui sont mal gérés de manière centralisée, et on doit réinventer ces espaces, et bon, on parle de mot de gouvernance, avec son polysémisme qui peut y avoir, c'est effectivement toute cette émergence de formes hybrides ou de multiples intérêts, finalement, peut-être avec plus de transparence, mais se négocient entre eux et produisent des réponses et des solutions sans passer par la boucle de la régulation étatique. Alors effectivement, on voit réémerger l'État, mais on voit réémerger l'État un État plus petit, peut-être plus régulateur, Mais ce qu'on voit, ce qu'on a surtout, c'est une énorme délégation de l'État des missions qu'il s'était données. En fait, voilà, pourquoi l'éducation devrait-il être un bien public ? Ça se gère très bien en tant que bien privé aussi. La santé se gère très bien en tant que bien privé. Ce qui se gère moins bien dans le privé, c'est la redistribution, c'est l'équité, c'est les droits fondamentaux, etc. Et en fait, l'État se débarrasse par délégation, mais est très inquiet du contrôle qu'il peut donner et de la contractualisation. Il n'y a qu'à voir les délégations de services publics dans la matière de l'offre au niveau des collectivités. Et c'est pareil au niveau de l'État. Je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'il devienne fonctionnaire. Je vais juste partager avec vous sur cette question de faut-il fonctionnariser tous les salariés du monde associatif. Quand j'ai commencé sur la pêche, dans les années 80-90, le président des pêcheurs, du comité régional des pêches en Bretagne, qui était un vieux militant, enfin qui est toujours un vieux militant communiste, gardait de la fin de l'après-guerre, il avait un seul mot d'ordre. Les pêcheurs et les agriculteurs, parce qu'ils nourrissent l'humanité, devaient être des fonctionnaires. Voilà, conceptuellement, il ne comprenait pas que les gens qui fournissent à manger ne soient pas des fonctionnaires. Et la question, je pense qu'elle n'est pas qu'une plaisanterie.
Moi, je voudrais revenir rapidement sur la question du marché, puisqu'on s'y attendait. C'est pour ça que je n'avais pas prononcé le mot dans mon introduction, parce qu'évidemment, ça allait arriver de manière comme une vague qui submerge tout dans vos présentations. Ça a été le cas dans 3 présentations sur 4. Vous avez commencé en nous parlant du marché des droits pollués, enfin tout ce qui est les marchés autour de la gestion de la mer. Sur la question de la santé, vous avez à juste titre discuté, je trouve, les limites de la dichotomie public-privé pour plutôt être dans mise en marché, hors marché, etc. Sur la question de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi des choses qui sont très présentes. Et puis il y a le cas éthiopien, où là, a priori, on est sur, pour le coup, une mise hors marché. Alors, si tant est qu'il y a un marché qui existait, mais en tout cas, voilà. Avec cette idée de... tout à l'heure, dans la première présentation, c'était, en gros, les communautés islandaises brisées par le marché. Là, c'est les communautés éthiopiennes, si du moins on emploie ce terme-là, brisées par... au nom de la protection de la nature. Enfin bref. Et en même temps, je me suis demandé, est-ce que c'est ça qu'il faut retenir, quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire que cette mise hors des modes de régulation ? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi peut-être une forme de legs coloniale du côté de cette vision de la nature-là ? Et en même temps, on sait aussi qu'en Afrique, il y a aussi des industries extractives absolument marchandisées de manière très violente aussi. Donc ça, ce serait la question côté Éthiopie. Et puis de l'autre côté, pour les autres présentations qui nous ont parlé de marchandisation, pour le dire vite, quoi, on voit bien qu'il y a des tensions. Alors sur les questions de protection de l'environnement, évidemment, on est au centre de ces tensions, mais même sur les questions de santé quand même. Voilà. Donc où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il y a aussi des processus contemporains d'éloignement du marché, de mise hors marché ? Sachant qu'aujourd'hui, on est dans une définition très large du marché. C'est-à-dire, c'est pas forcément le marché privé, c'est pas forcément le marché orienté vers la production du profit, puisque l'exemple de la santé le montre depuis au moins le début des années 2000. On pourrait prendre d'ailleurs l'exemple de l'enseignement supérieur aussi. Il y a aussi des constructions de marché à l'intérieur même du secteur public. Mais voilà.
Peut-être, je pense que moi, dans le cas... disons, de la patrimonialisation, on va dire, globale de la nature, ça rejoint la question des communs, à la fois, je pense, puisque plutôt que la notion public-privé ou l'éventuelle dichotomie, moi, il me semble que c'est davantage la question des échelles, finalement, qui se pose. C'est-à-dire que plus il y a d'acteurs, plus les acteurs circulent entre les échelles, et finalement, ils construisent les échelles au fur et à mesure qu'ils circulent entre elles, plus cette dichotomie plus public-privé, selon moi, se floute, se croise, et la marchandisation rentre là-dedans. Sur la nature, là j'ai donné l'exemple de l'Éthiopie et d'un parc, mais la marchandisation de la nature, c'est la question qui se pose dans la community conservation, enfin dans la conservation communautaire, de savoir si la marchandisation n'est peut-être pas le seul moyen de sauver la nature. C'est-à-dire, si une espèce a une valeur, eh bien, elle sera sauvée. Il y a, par exemple, dans toute l'Afrique de l'Est, il y a une initiative qui s'appelle Camp Fire. Donc, c'est dans 8 pays d'Afrique de l'Est sur Community Area Management Protection Integrated. Bon, on a tous les mots-clés de la gouvernance mondiale dedans, avec l'idée que, par exemple, pour, ils ont pris cet exemple-là de l'éléphant. Si l'éléphant rapporte davantage d'argent en étant vivant, puisque tous les touristes vont venir le voir, les populations, si elles sont les bénéficiaires du tourisme, auront plus d'intérêt à garder cet éléphant vivant qu'à le tuer. Donc là, il va y avoir une dévolution des droits des zones mises en parc aux communautés, en disant, ben là, si l'argent leur revient, finalement, ça sera plus utile. Alors là, c'est l'État qui cède une partie de ses droits à des communautés, parce que c'est public-privé. Mais là, après, je pense que la notion des mots est extrêmement importante. Parce que, alors, il y a ce qu'on appelle, là, c'est dans le cas de la nature, mais l'exemple, justement, qui a été donné, c'était un délégué ghanéen qui avait donné ça. Il était à une table, il avait le même portable que moi, et il y avait des gens qui avaient des iPhones. Il a dit, mais le problème de l'éléphant, c'est la même chose que les smartphones. Si l'éléphant n'est plus à la mode un jour, et qu'on juge que, du coup, il n'a plus de valeur, comme qui irait acheter un iPhone 1 aujourd'hui, ou qui irait acheter ça. Il disait, et le jour où l'iPhone 9 sera plus à la mode, il disait, ou le jour où l'éléphant sera plus à la mode, si sa valeur est marchande mais pas intrinsèque, est-ce qu'on va continuer à le protéger ? Donc voilà, moi je pense qu'il y a cette notion d'échelle qui complexifie la chose et de la valeur qui est entre le public et le privé. Moi je dois dire que c'est vrai que la dichotomie pour... Enfin je ne sais même pas si on peut, en tout cas dans mon cas d'étude, l'aborder là-dessus, si ça montre le titre qui pour moi était très bien choisi, c'est sous tension finalement permanente. Mais avec la question des échelles d'acteurs qui à mon avis est centrale là-dedans.
Des questions là-dessus ? Oui.
Je voudrais savoir si vous ne pensez pas que la différence et la frontière entre public et privé, elle, pas se résume, mais elle s'illustre bien à travers les questions d'intérêt. La différence entre l'intérêt public et l'intérêt privé, davantage que sur une question organique où finalement, on dirait que le public disparaît si la fonction publique disparaît, alors que l'action de l'État ne se résume pas à sa fonction, enfin, à ses fonctionnaires, et le fait que la fonction publique se contractualise n'est pas un retrait de l'État, tout comme lorsque l'État délègue une mission à un acteur privé, il ne l'abandonne pas, il lui en confie la réalisation, tout en lui fixant les conditions dans lesquelles l'activité doit être réalisée. Et donc, en déléguant, il garde un certain contrôle, et surtout il garde la maîtrise de la façon dont l'activité va être réalisée, dans la mesure où on lui dit, vous la confirme, vous la faites de telle façon, et cette façon-là est garante de l'intérêt public. Et donc finalement, ça rejoindrait, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais les théories de Williamson sur les modes hybrides de gouvernance, qui disent que finalement c'est une coopération, où on arrive à concilier l'intérêt des particuliers et l'intérêt général, et même plutôt à les faire converger, c'est-à-dire qu'en réalisant l'un, on réalise l'autre. Et donc, en ce sens-là, la délégation, c'est une forme de possibilité de gouvernance, c'est-à-dire qui permettrait de concilier intérêt général public et intérêt particulier privé.
Oui, parce que alors, du coup, je caricature un peu, mais tout change pour que rien ne change, en fait, c'est ça. Ben non. Enfin, je serai en désaccord avec ça. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je vais dire très rapidement à la fin. C'est-à-dire que le fait de déléguer de l'action publique à des opérateurs associatifs, ça a des effets concrètement dans les pratiques. J'ai pas eu le temps de développer, mais c'est très. Alors, je prends un exemple. Dans l'insertion par l'activité économique, où on a des chantiers d'insertion qui recrutent des personnes dites éloignées de l'emploi, ces chantiers d'insertion donc sélectionnent le public qu'elles vont accompagner dans les contrats d'insertion. Ce qu'on a observé, c'est qu'elles vont recruter en priorité les plus employables des moins employables. Et donc, c'est totalement contraire à l'objectif de cohésion sociale qui leur est par ailleurs assigné. Et donc on voit bien que dans le fonctionnement de ces associations et dans le c'est pas que des histoires de statut, hein, ça affecte les pratiques et on voit bien que ça contrairement à la norme d'égalité de traitement qui est ancrée dans le service public et que le statut de fonctionnaire qui est pas là uniquement pour faire joli, je veux dire protège. Si les enseignants sont payés au grade, c'est pour qu'ils traitent de manière égale le public auquel ils s'adressent. Et si on passe dans une logique associative avec une rémunération qui peut être liée d'ailleurs à la performance en termes d'impact social que j'ai vite évoqué, mais tout est lié, si vous voulez. On déroge par rapport à cet idéal. Alors on peut dire que c'est un idéal et que ça a jamais été conforme et tout ça, mais ça a des effets concrets dans les pratiques d'organisation du travail et de service aux personnes.
Oui, pour l'intérêt, moi aussi, je comprends votre point de vue qu'effectivement tout est mixé. Enfin là, dans l'exemple, je pense à un travailleur de la fonction publique, s'il préfère le fonctionnariat au contractuel, c'est à la fois pour le service public, mais pour son intérêt personnel. Donc, les deux sont liés. Mais cela dit, cette notion de délégation, comme vous dites, je pense que ça peut aussi enlever, l'idée que la chose publique en tant que telle. Il y a des choses publiques qui n'ont pas d'intérêt personnel. Le monument, la sauvegarde d'un monument, tous les débats sur Notre-Dame, l'intérêt personnel n'existe pas. Là, c'est l'intérêt de la chose publique. Pourquoi une nation veut se doter d'une chose publique autour de laquelle se rassembler ou non, s'inventer une identité ou non ? Que cette délégation de la chose publique à des acteurs privés nous amène à poser la question, mais enfin, est-ce qu'il y a des choses publiques qui n'ont pas de lien avec l'intérêt personnel ? Alors après, c'est une question de quel type de société les populations se construisent. Mais c'est peut-être ça que ça interroge. Est-ce que finalement la chose publique existe ou est-ce qu'elle existerait encore en dehors des intérêts personnels ? Mais c'est peut-être un nouveau aussi régime d'historicité. Au XXIe siècle, je pense que cette question se pose de plus en plus. Mais à des moments, je pense que c'est une évolution par contre.
Oui, c'était une réflexion ou deux réflexions complémentaires par rapport à ce qui a été dit là sur la question de l'intérêt et puis sur la question des entreprises d'insertion. Là, sur la question de l'intérêt, je me rappelle d'une définition assez ancienne d'un économiste public qui était Jean Bénard, qui faisait la distinction entre l'intérêt public et l'intérêt général, puisqu'on a évoqué aussi ces notions à certains moments. Et l'intérêt public, pour lui, était la considération de l'intérêt d'une société ou d'un groupe ou d'une communauté prise comme une totalité, au sens où, par exemple, on pourrait parler de l'intérêt de la France, voilà, enfin quelque chose incarnant une totalité. Alors que l'intérêt général était plus dans une acception un peu à l'anglo-saxonne, impliquant des mécanismes d'agrégation. C'est-à-dire là, c'est la somme des intérêts individuels transitant par des mécanismes d'agrégation permettant de traduire, d'arriver à quelque chose de collectif à partir d'intérêts individuels. Et les deux mécanismes d'agrégation retenus, c'était soit le vote, bon, voilà, l'élection, suffrage universel par exemple, ou alors le marché, bon, qui serait un autre mécanisme d'agrégation des préférences. Donc en ce sens-là, je pense que réfléchir un peu plus avant sur cette notion d'intérêt, d'intérêt général, d'intérêt public et au-delà d'intérêt privé avec des DS, hein, des intérêts privés et au pouvoir qu'il y a derrière, parce que la question du pouvoir est aussi une question importante. On le voit bien, bon, je ne sais pas, dans le cadre de l'Éthiopie que vous avez évoqué, bon, le pouvoir à la fois des institutions internationales et puis, ou des organismes internationaux et puis de l'État local et puis éventuellement des communautés, c'est une question qui me semble assez central et qui n'a peut-être pas été tellement abordé, au moins directement, indirectement, oui, mais pas directement. Et puis, deuxième réflexion qui venait aussi d'un ensemble de communications et de ce qui a été évoqué aussi sur la question de la valeur. Bon, faut voir aussi que la question des systèmes de mesure, parce que quand a été évoquée la question des entreprises d'insertion, bon, c'est lié aussi aux obligations de reddition auxquelles aujourd'hui sont soumises les institutions, les associations, les entreprises de l'économie sociale et solidaire et des critères de performance. Par exemple, quand on prend effectivement le taux d'insertion comme un critère essentiel de financement dans des activités d'insertion par activité, bah forcément, on est amené, ou les organisations sont amenées tout simplement pour obtenir des sous, à sélectionner à l'entrée leur public pour pouvoir présenter des statistiques d'insertion qui soient ensuite favorables. Et donc, ce type de logique est aussi un moyen puissant, finalement, d'imposer. Je ne sais plus qui a évoqué les sciences de gestion qui avaient aussi, à travers le nouveau management public, imposé un certain nombre de normes. Bon, là aussi, cette normative des systèmes d'évaluation est assez prégnant et oblige à recomposer aussi la frontière entre le public et le privé à travers les indicateurs, les normes, la reddition de comptes, donc tous ces éléments qui deviennent aujourd'hui extrêmement prégnants dans les modalités de gestion à tous les niveaux, que ce soit au niveau du secteur public, mais aussi des entreprises, entre guillemets, privées ou des associations ou des mutuelles qui sont censées rendre des services d'intérêt généraux.
Il y a une question, il y en a d'autres. Il va falloir qu'on termine rapidement. Bon, allez-y.
Une question, est-ce que au-delà de la question de la frontière, il n'y a pas aussi la question de l'engendrement mutuel du public et du privé? Alors, il ne faut pas substituer privé à marché, mais dans une approche plichtinienne, les marchés, ils naissent parce qu'il y a un État, quoi. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'un engendre l'autre, quoi. Souvent pas avec un grand plan idéologique. Je pense à l'article de Hamsalani et Smith dans Gouvernement et Action publique qui doit dater de 2-3 ans, où il montre comment l'État, à l'heure actuelle, choisit le marché, parce que le marché, ça marche, entre guillemets. Enfin, tout au moins, il est convenu que ça marche. Comme en Union soviétique, le plan, ça marchait. Hein, c'est pas... C'est pas dans l'absolu, on croit que ça marche. Donc c'est intéressant aussi, je pense, de poser la question du public, du privé, dans sa dimension dynamique et de ce que l'un fait à l'autre.
Et pour poursuivre dans ce que vient de dire Gaël, moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans cette séparation entre public-privé, on dit qu'elle est hybride, on dit qu'elle est poreuse, elle est sous tension. En fait, c'est le côté un peu boîte noire parfois face à la création des mécanismes de régulation ou à la création des normes ou à la création des outils d'évaluation. Comment l'expertise et les savoirs circulent entre privé et public, qui prend quelles décisions, pour quels intérêts, et les jeux parfois interpersonnels. Là, je n'ai pas le temps, mais je travaille sur la privatisation du secteur hospitalier en Inde et on voit que souvent le partenariat public-privé marche ou ne marche pas pour des affaires de personnes et de personnalités qui ont une histoire commune, qui sont passées par les mêmes institutions de formation ou qui ont à un moment une même vision de ce qui peut marcher ou de ce qui ne peut pas marcher, ou des critères d'évaluation. Et donc moi, ça m'interpelle beaucoup, et dans les différents domaines qu'on a pu aborder aujourd'hui, de comprendre en fait comment est-ce que parfois, au-delà des aspects secteur, loi, normes, comment est-ce que concrètement il y a une co-construction ou pas, en fonction des secteurs, entre des acteurs privés et des acteurs publics. Et comment est-ce que si, et c'est peut-être les dynamiques les plus contemporaines, il y a aujourd'hui une fluidité, une circulation et des personnes et des modèles d'un secteur à l'autre.
Bon, je pense que cette dernière remarque est intéressante. Je pense qu'il y a presque un mot de conclusion, parce qu'effectivement, on est en plein... Ça ouvre la question de la gouvernance. Qui sait, qui prend les décisions, avec quel intérêt, dans quel contexte? Et bon, c'est une question qui va peut-être être traitée aussi dans la journée. Mais effectivement, une question importante. Donc on va en conclure. Là, on a un petit peu de retard, mais on avait démarré aussi avec 10 minutes de retard. Donc on est pratiquement dans le temps de la session. Donc tiens à remercier à l'ensemble des intervenants. Et puis merci pour suivre la session. Donc on va passer, je passe la parole à Émilie pour les questions d'organisation. Je crois qu'il y a le buffet qui nous attend.